Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la course à la chefferie du PQ, de l'euthanasie qui continue d'être contestée par des députés québécois, du troisième sexe dans le recensement 2016. Et nous allons terminer, comme c'est notre coutume, par les bonnes nouvelles du jour en rafale. Débutons maintenant par cet article du Journal de Montréal qui est intitulé « C'est loin d'être gagné pour le favori ». Voici ce que nous dit Geneviève Lavoie. Ce sera la course à la direction la plus ouverte de l'histoire du Parti québécois selon un sondage. Les 8 chefs péquistes qui se sont succédés depuis René Lévesque se sont tous imposés rapidement comme des meneurs indétrônables dès les premiers coups de sonde. Cette fois-ci, c'est différent. Seuls 2 candidats potentiels seraient en mesure de chauffer le Parti libéral. Un PQ dirigé soit par le député jeannois Alexandre Cloutier ou par la députée de Joliette, Véronique Yvon, arriverait coude à coude avec le gouvernement de Philippe Couillard dans les intentions de vote en tenant compte de la marge d'erreur. Vue comme la candidate de la convergence souverainiste, Véronique Yvon ne récolte pas une majorité d'appui chez les électeurs de Québec solidaire comme on aurait pu s'y attendre. C'est plutôt Alexandre Cloutier qui a la faveur des solidaires. Et donc, mesdames et messieurs, le seul qui peut vaincre les libéraux et réunir Québec solidaire, c'est Alexandre Cloutier. Or, le problème ici, c'est qu'il ne fait pas consensus. Ça en dit long sur le Parti québécois, ça, mesdames et messieurs. Le Parti québécois, c'est une coalition de souverainistes. Il y a des souverainistes pressés, des souverainistes modérés, il y a des gens de gauche, de centre et de droite. Et c'est ça le problème du Parti québécois. C'est une coalition arc-en-ciel, et ça prend un chef qui a à la fois du leadership, mais pas trop, pour se mettre à dos. Certains tenants de droite, de gauche, certains modérés, certains pressés, qu'on appelle les caribous. Et moi, je croyais personnellement que le meilleur candidat pour le Parti québécois, c'était Jean-Martin Aussant, celui qui avait mis sur pied Option nationale, qui avait un programme presque similaire à celui de Québec solidaire, à l'exception que Option nationale, c'est un parti qui met en premier la souveraineté du Québec, alors que Québec solidaire met en premier l'agenda de gauche. Je me disais, c'est celui qui est le mieux placé pour parler à Québec solidaire et en même temps réunir avec lui Option nationale puisqu'il est le fondateur du parti. Mais ce qui arrive, mesdames et messieurs, M. Aussant a annoncé qu'il ne se lancerait pas à la direction du Parti québécois. Ce qu'on dit, c'est que Véronique Yvon, elle, pourrait jouer ce rôle-là de rassembleuse parce qu'elle a ces qualités-là d'aller chercher, d'aller rapatrier. Et on lui donnerait le mandat de réunir Québec solidaire, Option nationale et le PQ dans un ensemble. Moi, je crois que ces trois partis-là devraient se réunir et porter un autre nom, recommencer sur de nouvelles bases, s'ils veulent obtenir gain de cause contre le Parti libéral. Maintenant, ça reste à suivre. On a quand même plusieurs mois pour en entendre des vertes et des pas mûres, pour utiliser une expression québécoise, parce que je suis convaincu que cette course au leadership va générer beaucoup de rebondissements. Comme le disait Geneviève Lavoie, c'est la course à la chefferie, mesdames et messieurs, la plus ouverte de l'histoire du Parti québécois. Auparavant, il y avait toujours un meneur qui prenait la tête, qui était en avant, qui se démarquait. On se disait, c'est lui le prochain leader, c'est incontestable. On l'a vu avec Pierre-Carl Péladeau. Il avait une grande longueur d'avance sur les autres. Un point tel qu'il y en a qui se sont désistés dans la dernière course. Maintenant, il semble, à moins d'un revirement, que ce n'est pas le cas. Alors, c'est à suivre, mesdames et messieurs. C'est à suivre, effectivement. Dans un autre ordre d'idées, il y a des députés dans une autre chambre, la Chambre des communes, les députés d'Ottawa qui représentent des circonscriptions du Québec, se sont levés et se sont opposés au projet de loi C-14. C-14, c'est le projet de loi qui, justement, justifie l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie. Jacques Gourde, qui est un député conservateur, ce que nous dit Le Devoir, c'est que, quant à lui, il aurait voulu que le Parlement se donne 5 ans pour étudier comment les choses évoluent au Québec. On aurait été plus éclairé qu'en faisant ça vite, 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 dit-il au Devoir. On avait la chance au Canada d'avoir une province qui a commencé. Après 5 ans, on aurait pu évaluer de façon plus avisée. Je continue. Il reconnaît que le gouvernement aurait eu à invoquer la disposition de dérogation pour que le jugement de la Cour suprême ne s'applique pas à compter du 6 juin prochain. Mais personne ne va le faire. C'est ce qu'il dit et c'est ce que nous rapporte Le Devoir. Mais écoutez bien ce que la députée néo-démocrate Christine Moore va nous dire. Voici ce que nous rapporte Le Devoir. La députée néo-démocrate Christine Moore craint, de son côté, que le projet de loi C-14 ouvre la porte à l'aide médicale à mourir sans que soit promis en contrepartie de meilleurs soins palliatifs aux malades. Pour moi, ça n'a aucun sens de permettre aux gens de mourir, mais de ne pas leur permettre de vivre les derniers moments d'une manière optimale, a-t-elle expliqué au Devoir. L'élu d'Abitibi explique que les ressources en soins palliatifs y sont insuffisantes, comme dans bien des régions. Certains patients se retrouvent du coup à l'hôpital, à l'étage des chirurgies par exemple, dans un environnement peu adapté aux patients en fin de vie. Il faudrait que les deux droits, en parlant de l'aide médicale à mourir puis des soins palliatifs, soient équivalents au niveau juridique. À l'heure actuelle, le droit à l'aide à mourir va être plus fort que celui de recevoir des soins palliatifs de qualité, a-t-elle déploré au sujet du projet de loi? Madame Moore s'inquiète que certaines personnes choisissent, au bout du compte, d'avoir recours à l'aide médicale à mourir car leurs conditions de fin de vie seraient trop pénibles faute de soins de qualité. Elle touche un point important, mesdames et messieurs. Premièrement, c'est qu'elle dit, puisqu'on n'offre pas des soins palliatifs, donc des soins en fin de vie, des soins pour ceux qui sont sur le point de mourir, on n'offre pas des services de qualité pour les soulager, des soins qui sont à la hauteur d'une dignité humaine, eh bien, ce que les gens vont faire, ils vont opter pour l'aide médicale à mourir. Ils vont dire, puisque c'est insupportable, donnez-moi donc la mort, puisque je vais mourir prochainement. Alors, il est là le problème. Elle touche le nerf de la guerre. Le député conservateur, lui, pour sa part, Jacques Gourde, va prendre une autre avenue. Il va dire, écoutez, avant qu'on se lance là, dans une loi, pourquoi on n'observerait pas ce qui se passe au Québec? Pourquoi on ne regarderait pas s'il n'y a pas justement des dérapages? On se donne 5 ans pour observer, puis dans 5 ans, on réévaluera le dossier. C'est la sagesse de l'observation. C'est la sagesse du temps. Maintenant, pour ça, il faut avoir recours à la clause dérogatoire. Et la plupart des gouvernements, la plupart des partis au pouvoir, n'osent pas toucher à la clause dérogatoire parce que c'est une clause qui dit qu'on déroge soit de la Charte des droits et libertés ou soit de la Constitution du Canada, l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Et donc, à ce moment-là, quoique la Charte des droits et libertés est enchâssée dans la Constitution, mais quand même, on y fait référence séparément la plupart du temps. Et donc, c'est un débat qui est intéressant et je suis content qu'il y ait des députés comme ça qui se lèvent et des députés des deux côtés de la Chambre pour dire au gouvernement, oh, un instant, là, ça ne fonctionne pas, C-14. On ne peut pas ouvrir cette porte-là sans se poser les vraies questions et sans commettre les bons gestes pour le bien de la population. Maintenant, au niveau fédéral encore, il y a un geste qui n'a pas été posé. Eh oui, il y a un geste qui n'a pas été posé sur les formulaires de recensement. Certainement que vous avez reçu un formulaire de recensement ou une demande de remplir un recensement que vous pouvez faire en ligne. Il y a le formulaire court et il y a le formulaire long. Ce ne sont pas tous les résidents qui obtiennent l'obligation de remplir le formulaire long. Mais il reste que néanmoins, tous les résidents doivent remplir pour leur famille ou au nom de ceux qui vivent sous le même toit le recensement qui leur a été indiqué. Mais ce qui arrive, c'est que sur ce recensement-là, mesdames et messieurs, il y a deux cases. Celle pour mentionner si on est de sexe masculin ou de sexe féminin. Mais il n'y a pas de troisième case. C'est pour ça que Le Devoir a intitulé son article « Le troisième sexe brille par son absence ». Voici ce que nous dit Le Devoir. « Cocher homme ou cocher femme ?» Point d'interrogation. L'Association aux trans, transgenres, transsexuels et intersexués du Québec, ATQ, considère que Statistique Canada fait un pas dans la bonne direction en acceptant que les membres de cette communauté n'indiquent pas de sexe dans le formulaire de recensement actuellement en cours au pays. Le geste pourrait permettre aux statisticiens fédéraux d'évaluer la demande éventuelle pour l'ajout d'une autre catégorie dans son recensement de 2021. Cette question de case n'est pas fondamentale pour les trans, a avoué jeudi au Devoir Danielle Chénier, représentante de l'ATQ. Administrativement, tout le monde ne veut pas s'afficher, mais l'ouverture de Statistique Canada est notable puisque leur formulaire ne permet pas à ceux et celles qui le souhaitent d'exister. Et ça, c'est spécial, mesdames et messieurs. En d'autres mots, ils disent, OK, parce que sur le formulaire, il y a une section commentaire, et donc on peut indiquer si on est trans. Mais maintenant, ça veut dire qu'on rouvre la porte à quelque chose d'assez spécial, mesdames et messieurs, parce qu'en 2014, le réseau social Facebook a offert à ses abonnés de nouvelles façons d'afficher leur identité sexuelle par l'entremise de plusieurs dénominations, telles que trans, etc. Et ce qui arrive, c'est que maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si, par exemple, un homme se dit « Non, dans le fond, je suis une femme », il faudrait que je change de sexe, donc que je devienne un homme, ou vice-versa. Prenons une femme qui veut devenir un homme. Mais si elle a subi une opération et elle est maintenant un homme, pourquoi elle ne coche pas « masculin » Pourquoi il faut avoir une troisième case? Une personne qui est née d'un sexe, mais qui veut être l'autre. Il me semble qu'il n'y a que deux sexes dans l'humanité. Et on a été constitué pour avoir un sexe ou l'autre. Maintenant, même si mes convictions personnelles sont qu'une personne doit apprendre à vivre avec son sexe, son identité sexuelle, si une personne, par choix, change de sexe, bien, il me semble, et je le dis en tout respect, qu'elle devrait assumer jusqu'au bout ce sexe. Si, par exemple, une femme devient un homme ou un homme devient une femme, prenons un homme qui devient une femme. Mais lorsqu'elle est devenue femme à part entière, elle devrait cocher « femme » et non pas « troisième sexe » ou « trans ». Alors, je lance la discussion, mesdames et messieurs, c'est à ça que sert justement notre émission « Le Tour d'horizon ». Maintenant, on passe aux bonnes nouvelles du jour en rafale. Eh bien, plus besoin de permis international. Et oui, lorsque les gens se dirigeaient, par exemple, du Canada vers la Floride, ils devaient passer par la Géorgie, cet État qui est juste avant d'arriver à la Floride. Les gens de la Géorgie, lorsqu'ils vous arrêtaient pour excès de vitesse ou pour barrage routier, etc., voyaient votre permis de conduire et disaient « Il n'est pas valide ici puisqu'il est en français ». Maintenant, à cause des pressions qui ont été exercées par CAA au Canada et AAA aux États-Unis, ainsi que par le gouvernement du Québec, eh bien, l'État de la Géorgie a accepté qu'à partir du 1er janvier 2017, le permis de conduire québécois en français sera acceptable. Ça, c'est une belle reconnaissance du fait que nous sommes une nation francophone. Merci, État de la Géorgie. Ensuite, le secteur Post-Canada affiche un profit avant impôt de 63 millions de dollars pour 2015. C'est excellent, ça, mesdames et messieurs. Et la dernière nouvelle du jour, Stéphanie Vallée annonce un investissement de 803 670 $ pour la persévérance scolaire en Outaouais. Et donc, ça, c'est intéressant. Et on espère que ces argents-là vont être bien investis pour que la réussite scolaire puisse prendre de l'ampleur en Outaouais. Sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, je vous dis à tous et à toutes, passez une bonne fin de semaine. Et j'aimerais souligner particulièrement tous les mamans qui sont à l'écoute. Je vous souhaite une bonne fin des mères. Donc, chers auditeurs, je vous dis à lundi.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!